J'espère que je n'ai rien oublié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons tous nous lever. Et nous allons lire trois écritures ce matin. La première, c'est dans Éphésiens 4, verset 3, 13 plutôt. Philippiens 4, verset 13, excusez-moi. Philippiens 4, verset 13, psaume 119, verset 8, et puis psaume 116, verset 1 à 9. Amen. Le titre est déjà là, nous sommes destinés à triompher. Alléluia. Philippiens 4, verset 13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Psaume 119, verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Psaume 116. Psaume 116. Verset 28, Samuel, pas 8. 119, verset 28. Psaume 116, verset 1 à 9. La Bible dit, « J'aime l'Éternel, car il attend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Verset 3. « Les liens de la mort m'avaient environné. » Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai, tout le monde, tous ensemble, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Nous allons courber nos fronts et prions pour la parole de Dieu. Que l'onction de Dieu descende dans ce lieu. Alléluia. Père, nous venons vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de ta grâce spéciale au milieu de nous. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans ce lieu. Alléluia. Pour que nous puissions, Seigneur, être en connexion avec toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit remplisse ce lieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle total de nos pensées. Nous renversons toutes les forteresses de l'ennemi. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons, Seigneur, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous repoussons tout esprit de distraction, tout esprit d'opposition, d'incrédulité, d'estime de soi, du découragement, de tristesse, de suicide, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mets tes anges autour de ce bâtiment, ton armée céleste pour nous garder, étant ta puissance, Seigneur, ta protection sur nous, alors que ta parole va être proclamée, alors que ta parole va être prêchée. Alléluia. Déverse ton onction prophétique sur ton Église. Nous libérons la puissance de la révélation. Nous libérons la parole de Dieu, alléluia. L'esprit de la compréhension de la parole de Dieu dans cette église, alléluia. Bénis ta parole, glorifie ton nom. El Shaddai, Adonai, Elohim. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Applaudissons le Seigneur, Église. Amen, 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 amen. Vous pouvez reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Dites à votre voisin, vous êtes destiné à triompher. Vous devez survivre, encore, vous devez survivre pour donner un témoignage. Alléluia. Vous devez survivre pour donner un témoignage. Amen. Alléluia. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire le mot triompher. Le mot triompher signifie remporter un succès sûr. Vaincre un adversaire ou une difficulté, manifester sa joie et sa fierté après un succès, jubiler. Donc, vous savez que pour triompher, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un cœur ouvert, il faut qu'il y ait la parole du Seigneur qui soit rentrée dedans. Deux choses. Donc, quand la parole de Dieu est entrée dans un cœur qui est ouvert, elle se plante. Comme c'est une semence, elle est comparée à une semence, mais une semence qui contient la vie de Dieu en elle. Et quand la parole qui contient la vie de Dieu en elle est plantée dans un cœur qu'il a reçu, cette semence que nous veillons, que nous dormions, elle grandit, elle pousse, elle produit exactement ce que Dieu voulait qu'elle produise. Toutes les paroles de Dieu nous sont données pour triompher. Triompher de la peur, triompher du découragement, de la détresse, de la tristesse, de la dépression, des liens, de la maladie, du manque de pardon, des épreuves ou des échecs. Nous sommes destinés à vaincre, à triompher. Et le plus grand des miracles ou triomphes, c'est de transformer quelqu'un qui marchait dans la condamnation à cause du péché et de le transformer à l'image de Jésus-Christ. La question est celle-ci. Vivez-vous la bonne vie que Dieu a préparée pour vous? Notre but est de manifester pleinement la vie de Jésus-Christ en nous, dans tous les domaines de notre vie, pour être un jour semblable à son image, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ne l'oublions jamais, Église, ce que Jésus-Christ veut faire de nous. Pour ça, il faut que nous lui appartenions. Amen. Jésus-Christ veut travailler dans notre vie, dans notre cœur, par son esprit, pour nous amener tout d'abord à la repentance. Et quand on lui appartient, il nous remplit de son esprit, qui est indispensable pour rendre vivante la parole de Dieu dans notre vie. Pour triompher. C'est un don merveilleux que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Alors, là, nous avons posé maintenant des bases avant d'aller plus loin. Mais je dois vous rappeler tout d'abord qu'il y a un autre élément qui fait partie du fondement de notre vie chrétienne et qui nous aide à nous libérer. C'est le pardon. Alors, si je vous pose une question, combien de temps y a-t-il maintenant depuis que vous avez demandé pardon à Dieu du mal que vous avez commis? S'il y a longtemps que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe dans votre vie. S'il y a longtemps que vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un pour une offense que vous lui avez faite, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans votre vie. Votre cœur s'est endurcie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'avez pas à triompher les circonstances qui sont autour de vous. Parce que le pardon libère complètement. Et si nous n'avons pas demandé pardon à Dieu ni à notre prochain, c'est un indice que notre cœur s'est endurci. Vous pouvez argumenter comme vous voulez, dire tout ce que vous voulez. Tant que le pardon sincère n'est pas là, le triomphe dans votre vie est impossible. C'est un secret que je vous donne. Peut-être vous le savez déjà, mais il faudrait l'appliquer dans votre vie. Maintenant, tous ceux qui croient et qui marchent avec le Seigneur, ce dont vous avez besoin pour vivre en vainqueur est déjà en vous par la puissance du Saint-Esprit. Des graines de réussite ont été semées en nous qui croyons. Des bénédictions sont en réserve pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur, tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Si vous êtes en accord avec Dieu, dans vos pensées, vos attitudes, vos paroles et vos actes, vous serez en position de jouir de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Alors, il faut toujours faire le choix de commencer votre journée en proclamant ce que Dieu déclare à votre sujet. Amen. Dites à votre voisin, j'ai la faveur de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Toute arme forgée contre moi, alléluia, restera sans effet. Alléluia. Alléluia. Je peux le proclamer ce matin. Amen. Est-ce que je peux enseigner encore un petit moment? Amen. Puisqu'on parle que nous sommes destinés à triompher, l'histoire nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont souffert et endurci des échecs dans leur vie, mais qui pourtant un jour se sont distingués dans leur vie. Par exemple, Isaac Newton, un grand philosophe mathématicien et physicien anglais, fut un véritable paresseux et fainéant à l'école élémentaire. Le professeur de musique de Beethoven a dit de lui, il n'y a rien à espérer de lui. Il n'y a rien à espérer de lui. Thomas Edison, l'un des inventeurs en électricité le plus important des États-Unis, ses professeurs lui ont déclaré qu'il n'était pas assez intelligent pour apprendre quoi que ce soit. Le rédacteur en chef d'un journal a licencié Walt Disney parce qu'il estimait que Walt Disney n'avait pas de bonnes idées. Vous savez déjà la réponse. Ne laissez jamais quelqu'un dire des choses négatives sur vous. Même si les circonstances que vous traversez semblent difficiles à vos yeux à triompher, vous savez, Dieu n'a jamais promis que les chrétiens ne connaîtraient jamais les échecs, les épreuves ou le découragement. Nous avons des exemples dans la Bible des hommes et des femmes qui ont dû faire face à des obstacles et à des tests qui ont durement éprouvé leur foi. Joseph, rendu esclave pendant plusieurs années et emprisonné pour des crimes qu'il n'avait pas commis, il a connu tristesse et désarroi. Pensez au découragement et au sentiment d'échec que Pierre a éprouvé après avoir réalisé qu'il venait juste de renier le Christ. Face aux tourments et aux difficultés de la vie, une seule réponse biblique existe. Tout comme le psalmiste l'a écrit dans Psaume 119, verset 28. « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Amen. Quand nous lisons ce psaume, nous réalisons que ce que l'on ressent parfois est légitime. Nous aimons tous les psaumes, n'est-ce pas? Nous réalisons que quand on lit le psaume, on se retrouve. Parce qu'en lisant les psaumes, nous voyons les choses que nous vivons. Nos attitudes, nos sentiments dans notre relation avec le Seigneur. Les psaumes expriment nos sentiments les plus profonds. Je peux vous regarder de l'extérieur avec objectivité et évaluer les épreuves que vous traversez avec admiration. Pourquoi ? Quand je vous regarde de l'extérieur, je vois les épreuves que vous êtes en train de traverser et j'admire votre attitude. Pourquoi ? À cause du calme et de la tranquillité que vous manifestez pendant les épreuves. Et j'admire cette attitude. Mais je ne peux pas savoir ce que vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez, ce que vous ressentez de l'intérieur. Voilà pourquoi nous aimons les psaumes. Nous pouvons voir les descriptions de ce que nous vivons de l'intérieur. Parfois, nous sommes en haut de la montagne, parfois dans la vallée. Mais Dieu, lui, ne change pas. Dieu est toujours le même. Ses promesses sont toujours réelles. Et ses promesses s'accompliront toujours dans notre vie. Alléluia. Mais notre culture nous pousse souvent à porter un masque, à faire semblant que tout va bien. Si la parole de Dieu vous touche, vous pouvez pleurer. Vous pouvez vous mettre à genoux et tout sortir. Il ne faut pas faire semblant. Il faut tout sortir. Frère Antonio nous a dit, il faut qu'on s'abandonne totalement au Seigneur. Alors, ce vide, seul le Seigneur qui peut le remplir. Alléluia. Dans le psaume 116, nous voyons David s'exprimer dans ses épreuves. Il est fatigué. Il est très, très fatigué. Il en a assez. Il en a assez d'être poursuivi par ses ennemis. Il veut en finir avec eux. Nous le voyons se plaindre devant le Seigneur. Il montre son humanité. Peu importe la puissance qu'il peut avoir, il y a des moments dans la vie, il y a des moments dans notre vie où l'on se sent tellement humain. Nous ne sommes que des êtres humains. On se sent tellement mal et on a envie de tout sortir devant le Seigneur. Excusez-moi. Quand on agit, souvent, certaines circonstances dans notre vie ne correspondent pas à la promesse que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné une promesse. Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné son esprit, mais les circonstances dans lesquelles je traverse ne correspondent pas à ce que je crois, à ce que je pense, à ce que j'espère. Comment agir quand nous n'expérimentons pas ce que nous espérons? Comment agir? Je vis pour Dieu et avec Dieu. D'un côté, j'ai des épreuves et de l'autre côté, j'attends, j'espère. Voir autre chose, que ma vie soit totalement transformée. On vous a peut-être dit que si vous venez à l'église, tout ira bien dans votre vie. Écoutez bien maintenant, mais on ne vous a pas dit quand. On vous a dit tout ira bien, mais quand et comment? Personne ne vous l'a prêché. Sauf si vous avez un prophète dans votre vie. Vous luttez entre ce que vous expérimentez actuellement et ce que vous espérez réellement et croyez. Vous luttez. Écoutez bien ceci. Parfois, notre esprit est déstabilisé parce que nous ne comprenons pas ce que nous expérimentons. Notre esprit est complètement troublé. On est déstabilisé. Parce qu'on ne comprend pas les circonstances et les expériences que nous traversons actuellement. L'apôtre Paul dit, « Tout ce que j'ai traversé comme épreuve m'a façonné, taillé, formé. Et Dieu se révèle à moi, je suis vainqueur. Alléluia. Nous sommes destinés à triompher. Amen. La vie de Paul fut puissamment conduite par le Saint-Esprit. Cependant, Dieu lui fit connaître de nombreuses souffrances dans son ministère. Maintenant, la souffrance a-t-elle plutôt une importance dans notre vie chrétienne? La réponse est oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la souffrance est une vraie école pour nous préparer, pour préparer plutôt des consolateurs. Amen. La souffrance, premièrement, la souffrance peut nous rapprocher des autres. Lewis, le philosophe écrivain anglais, disait de la souffrance qu'elle est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd. Le mégaphone de Dieu pour réveiller le monde sourd. Est-ce que on est tous réveillés ce matin? Deux, la souffrance peut produire la compassion. Dans la souffrance, nous découvrons dans nos relations avec les autres une profondeur que nous n'aurions jamais connue. Si je n'ai pas expérimenté une certaine épreuve dans ma vie, je ne pourrais pas comprendre quand l'autre passe dans la même épreuve. Je dois passer par là. Nous avons un exemple parfait de notre Seigneur. Comme le Seigneur a souffert sur le chemin de la croix à notre place, la Bible dit, il sait aussi nous consoler dans toutes nos détresses pour que nous puissions à notre tour maintenant consoler tous ceux qui sont en détresse. Parce que Jésus-Christ est passé par là, par la consolation que nous-mêmes, nous recevons de Dieu. Si lui nous a consolés, s'il est passé par le chemin de la croix, c'est maintenant à notre tour de consoler ceux qui sont dans la détresse. Alléluia. La souffrance peut développer trois. La souffrance peut développer la patience. Jacques a dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. La souffrance peut nous perfectionner. Hébreux 12, verset 6 jusqu'à 7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Maintenant, le verset finit par une question. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 5. La souffrance peut nous rapprocher de Dieu. L'épreuve est en réalité un bien pour ceux qui se tournent vers Dieu. L'apôtre Paul dit, dans le péril que nous avons couru en Asie, nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Il a dit au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Oui, nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Ainsi, notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia! Sans une véritable confiance en Dieu, la souffrance peut paraître absurde. Par contre, le croyant peut savoir que le Seigneur ne le laissera pas souffrir inutilement, sans pouvoir toujours comprendre pourquoi Dieu permet cette souffrance. Il y a toujours une réponse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 25, « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. » Là, on parle de l'apôtre Paul. « J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Et dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais. » Je ne comprends pas ce que l'apôtre Paul dit là. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà le secret. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Trois choses importantes à retenir. La foi en qui nous avons cru, les expériences que nous traversons qui déterminent notre futur. Trois, et la vision que Dieu donne. Trois choses, la foi, les expériences et la vision que Dieu donne. Quand on pense à la souffrance et à la victoire de Jacob, peut-on parler un petit moment de Job. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il n'y avait personne comme lui sur la terre, la Bible dit. Il n'y avait personne comme Job. Il avait 7 fils et 3 filles. Il était très riche, l'homme le plus considérable. Mais tout ce qu'il possédait furent détruits. Ses enfants sont aussi morts, dans chapitre 1. Job, dans son épreuve, il s'est posé cette question. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Cette question torture souvent l'esprit des chrétiens aujourd'hui, même quand ils n'osent pas la poser ouvertement. Où es-tu, Seigneur? Elle s'accompagne d'autres interrogations sur la raison d'être de la souffrance et son rapport avec la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais je souffre. Si Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, pourquoi laisse-t-il souffrir ses enfants? Parce que Dieu est souverain. Vous savez, les conseils ne manquent toujours pas d'arriver quand on souffre. Mais la réalité est autre. C'est-à-dire, ce que Job avait ressenti en face de ses 3 amis. Les amis de Job sont là pour le consoler maintenant et le conseiller. Au départ, ils sont silencieux, stupéfait par ce qui arrive à Job. 7 jours, la Bible dit, 7 jours de silence. Ça permet de méditer. C'est Job maintenant qui rend le silence, en commençant par maudire le jour de sa naissance, au chapitre 3. C'est le début maintenant des cycles de discours entre Job et ses amis. Ses amis posent des questions et Job répond à leurs questions. Maintenant, si nous examinons quelques encouragements de ses amis, Eliphaz, le premier ami, ouvre maintenant le débat. Et à quelle manière? De quelle manière plutôt? De quelle manière il ouvre le débat? Dans Job 4, verset 3, Eliphaz dit, « Voici que tu as donné de leçons à beaucoup. » Là, il parle à Job. Voici que tu as donné des leçons à beaucoup. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, maintenant, tu te lasses maintenant, que cela te touche, tu te troubles, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Et au chapitre 5, verset 17, il dit encore, ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend, ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Après, il poursuit, il continue en rappelant à Job maintenant ce que les méchants subissent, comme si Job était vraiment un pécheur. Alors, il dit dans le chapitre 15, à partir du verset 20, le méchant passe dans le tourment tous les jours de sa vie. Le nombre des années réservées à l'homme violent, un bruit qui fait peur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va survenir sur lui. Maintenant, il lui dit maintenant ce qu'il pense. Il dit réellement ce qu'il pense. Est-ce à cause, au verset 22, est-ce à cause de ta piété qui te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta malfaisance n'est-elle pas grande? Tes fautes ne sont-elles pas sans limite? Car tu prenais sans cause des gages à tes frères. Tu arrachais les vêtements de ceux que tu laissais nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était à l'homme fort et l'orgueilleux y siégeait. Tu renvoyais les veuves, les mains vides. Le bras des orphelins était brisé. C'est pour cela que tu es entouré des pièges. Vous écoutez les condamnations maintenant. C'est maintenant que vous êtes entouré des pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Quel conseil! Le deuxième ami, Bildad, dit à Job, au chapitre 8, « Si tes fils ont péché contre Dieu, il les a livrés à leur crime. » Quelle consolation! Alors, Bildad insiste encore sur le fait que Dieu est du côté de juste. Il dit, Dieu est toujours du côté de juste. Et que les fautes se payent tôt ou tard. Là, il parle à Job. Autrement dit, si Job souffre, c'est de sa faute. Et personne n'y peut rien faire pour lui. Pour Bildad, Job doit se repentir. Pour lui, Job doit se repentir. Job ne sait même pas pourquoi il doit se repentir. Mais il doit quand même se repentir. Il ne sait pas de quoi. Et le troisième ami, Tsophar complète maintenant le discours de Bildad en précisant que Job peut revenir vers Dieu en fuyant le mal et en priant afin que sa situation actuelle devienne un mauvais souvenir. On peut oublier maintenant ce mauvais souvenir. Et qu'il soit, il dit maintenant, et qu'il soit socialement et psychologiquement rétabli. On dirait que Job était devenu psychologiquement malade. En bref, les trois amis cherchent à convaincre Job d'une chose. Son malheur est une punition divine. Donc Job doit se repentir. Même s'il ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut chercher maintenant d'où vient la faute. Quand on vous pointe du doigt, maintenant il faut chercher d'où vient la faute. Même si vous ne savez pas d'où elle vient. Car ça, la faute peut-être involontaire. Alors, je dois me repentir, même si je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Vous savez, dans l'Antiquité, la longue vie de nombreux enfants, les richesses, étaient considérées comme la réussite. Au contraire, la souffrance et les épreuves, comme Job vient de subir, étaient considérées comme une malédiction. Et au chapitre 18, Bildad sous-entend que Job fait partie des méchants. C'est ça sa conclusion. Et au chapitre 19, Job maintenant exprime qu'il se sent insulté. Il exprime ses mécontentements par rapport à ce que Bildad avait dit à son sujet. Et Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Ça, c'est Job qui parle. Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Il voulait leur dire, laissez-moi tranquille. Dieu seul sait ce qui se passe dans ma vie. Si réellement j'ai péché, il dit, ça c'est Job qui parle, si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Au chapitre 20, Tsophar, le troisième ami, se sent insulté par la réponse maintenant que Job a donnée à Bildad. Alors maintenant, tout le monde s'énerve dans cette affaire, tout le monde s'énerve et cette affaire devient un vrai dialogue de sourds. Est-ce qu'aimeriez-vous avoir des amis comme Job, comme les amis de Job? Non. Alors, que doit-il faire maintenant dans cette transition entre les épreuves et la délivrance du Seigneur? Que doit-il faire? Il doit garder la foi et continuer à louer le Seigneur, à prier, il doit persévérer et garder la vision que Dieu donne. Amen. Certaines épreuves sont des préparations. Nous servons un Dieu qui délivre et qui nous soutient dans les épreuves. En hébreu, il y a 4 mots pour exprimer le mot soutien. Soutenir signifie supporter, nourrir, maintenir en vie. Maintenir en vie, tenir. Donc le chrétien doit triompher et pas rester tout le temps à subir, se lamenter, sans connaître la puissance et l'héritage que nous réserve la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je sens que le Seigneur est en train de travailler dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Soyez libres dans sa présence. Je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je dois proclamer la parole de Dieu dans ma vie. Bien que toutes les choses soient changeantes, mon Dieu demeure le même. Alléluia. Je dois proclamer les promesses de l'Éternel. Je refuse d'être découragé. Je refuse d'être triste. Je dois proclamer cela. Je refuse de pleurer. Je refuse d'être déprimé parce que je possède un Dieu qui est puissant. Je possède un Dieu qui m'aime. Alléluia. Il est omniscient. Il est puissant. Son nom est Jésus-Christ. Mon Dieu connaît tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin. Sa présence est mon réconfort. Lorsque la maladie vient m'affaiblir et affecter mon moral, je me réfugie dans les bras de mon Dieu Tout-Puissant. Lorsque mon cœur fait face à la détresse et que la faiblesse semble prendre le dessus, il me prend dans ses mains, il calme mon cœur et mon âme. Alléluia. Le grand Je suis, Jésus-Christ de Nazareth, est avec moi ce matin. Il tient ma vie entre ses mains. Il est mon espoir. Je subsiste. Par sa force, alléluia, le Saint-Esprit opère dans votre vie. Je refuse d'être un échec. Mes yeux sont sûrs, mon Dieu. Il a promis d'être avec moi. Je regarde au-delà de toutes mes circonstances, vers le trône, alléluia, vers le trône céleste, vers les lieux élevés, où il y a toutes les bénédictions de l'Éternel. Le combat lui appartient. Le combat lui appartient et la victoire est la mienne. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je suis là pour proclamer la parole de Dieu. Je suis là pour proclamer les promesses de Dieu, les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez prendre le matériel, mais vous n'allez pas prendre ma foi. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Je marche avec la puissance de Dieu. Je marche avec l'onction divine. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu possède beaucoup de choses en réserve pour nous. Est-ce que tu crois cela, frère Tom? Alléluia. Dieu possède beaucoup de choses dans notre vie. Parce que notre Dieu ne change pas. Peu importe que fait l'homme. Mais Dieu est toujours dans ma vie. Il est toujours vivant. Alléluia. Je dois survivre. Merci Seigneur. Je dois triompher dans ma vie. Ma vie doit être victorieuse. En Jésus-Christ, mon roi. Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Alléluia. Souvenez-vous de ce verset. Nous pouvons faire toutes choses par Jésus-Christ qui nous fortifie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin d'être délivré totalement de là où vous êtes, de la détresse, du découragement. Alléluia. De l'esprit de suicide. Parce que votre Dieu a triomphé la mort sur la croix du calvaire. Il y a bientôt 2000 ans, alléluia. Il a remporté la victoire. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il a vaincu la mort sur la croix. Je dois survivre, alléluia. Restez vivant. Et poursuivez jusqu'au bout, je vais te suivre, alléluia. N'abandonnez pas, alléluia. Je dois proclamer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, alléluia. Déchargez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Le jour où j'ai invoqué l'Éternel, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu de paix, écoutez, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Je vais répéter ce que je viens de dire. Il a dit que nous écraserons Satan sous nos pieds. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire... Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Attendez, je vais finir. Je ne craindrai rien. Peu importe ce que peut me faire un homme. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu, Zorobabel? Qui es-tu devant un enfant de Dieu? Alléluia! Un enfant de Dieu triomphe. Un enfant de Dieu n'a peur de rien. Alléluia! Nous allons triompher ce matin. Alléluia! Alléluia! J'ai encore deux déclarations à faire. Psaume 27, verset 1, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ce chose, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Psaume 18, verset 33-34. C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la victoire, dans la voie droite. Il rompt mes pieds. Il rompt mes pieds. Alléluia. Semblable à ceux des biches. Et il me place. Il me place où? Il me place où? Sur le lieu. Sur le lieu. Sur mes lieux élevés. Ouh! Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Un dernier verset. Une dernière déclaration. Toujours la parole de Dieu. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la détresse. Mais votre tristesse se changera en joie. Quelqu'un a-t-il la joie du Seigneur ce matin? Quelqu'un a-t-il la joie du Seigneur ce matin? Il va se lever et il va louer le Seigneur. Alléluia. Je lève ma voix, Seigneur, pour proclamer la victoire. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Je l'évoquerai toute ma vie. Alléluia. Que votre coupe déborde. Que votre coupe déborde ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut déverser sur vous sa parole. Le Seigneur veut déverser sur vous une onction fraîche. Je veux déverser sur vous son amour illimité. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. J'ai vaincu, alléluia, parce que Christ a vaincu la mort. Oh, merci Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je veux aller dans le camp de l'ennemi. Je veux aller dans le camp de l'ennemi. Reprends tout ce qu'il a volé. Alléluia. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia.
Je vais dans le camp de l'ennemi. Reprends ce qui m'a volé. Reprends ce qui m'a volé. Reprends ce qui m'a donné. Je vais dans le camp de l'ennemi. Reprends ce qui m'a donné. Je l'ai sous les pieds. Je vais l'écraser. Je l'ai sous les pieds, je vais l'écraser. Aucun démon de l'enfer ne peut m'en empêcher. Je vais dans le camp de l'ennemi. Reprends ce qui m'a volé.
Vous êtes précieux.
Reprends ce qui m'a volé.
Vous êtes précieux.
Ce qui m'a volé. Je vais dans le camp de l'ennemi.
Du Seigneur.
Reprends ce qui m'a volé.